Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord, Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, la menace de l'État islamique sur le football européen, le mouvement terroriste cible notamment les joueurs et les supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes demain. Tous les détails dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi ce nouveau fragment d'os appartenant au petit Émile retrouvé dans la zone de recherche. Le point sur l'enquête dans ce journal. Un meilleur accompagnement des élèves en situation de handicap pendant les pauses déjeuner à l'école. La proposition de loi a été adoptée. Explication. Et puis la triple championne olympique, Marie-Josée Pérec, qui emmènera la flamme en Guadeloupe à bord d'un trimaran avec un comédien, un chef étoilé et une Miss France. Rendez-vous à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour l'après-midi.
Un temps très instable sur la majeure partie du pays. Averses, éclaircies et vents, c'est le programme pour ce mardi après-midi avec des températures en baisse. 11 à 14 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 22 degrés en Corse. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec l'inquiétude à la veille du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le match prévu au Parc des Princes fait l'objet de plusieurs menaces d'attentats de l'État islamique. Jean-Baptiste Marty, des menaces signalées sur la plateforme Pharos et ce sont des appels à cibler les supporters et les joueurs.
Eh bien oui Céline, des photos publiées hier soir sur les réseaux sociaux de l'État islamique, on peut y voir un combattant de Daesh encagoulé, armé d'un fusil, regardé en direction du Parc des Princes et cette phrase qu'ils aiment, comprenez, tuez-les. D'autres stades sont également cités sur cette photo, l'Emirates Stadium, le Metropolitano Arena ou encore Santiago Bernabéu. Tous vont accueillir des matchs de Ligue des Champions ce soir ou demain soir. Un logo est aussi visible sur cette photo, celui du média officiel de la province du Khorasan de l'État islamique. L'inquiétude grandit donc au point que les autorités françaises ont alerté leurs homologues espagnoles et anglaises via Europol. Gérald Darmanin qui annonce à l'instant avoir renforcé le dispositif policier demain soir.
Les précisions de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. L'actualité de ce mardi 9 avril, c'est aussi ce nouveau fragment d'os du petit Émile découvert non loin du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence, à environ 2 km de la maison des grands-parents du petit Émile. Frédéric Michel, vous suivez cette affaire depuis le début pour Europe 1. C'est un nouvel élément important pour les enquêteurs.
Oui, et cette découverte remonte à quelques jours. C'est un fragment d'un petit os qui a été retrouvé pas très loin du lieu où le crâne de l'enfant a été ramassé par une promeneuse, dans le même périmètre où les enquêteurs ont trouvé les vêtements du garçonnet. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a confirmé qu'il s'agissait bien de restes du petit Émile. Après une semaine passée sur le terrain, les scientifiques de l'IRCGN ont quitté le Haut-Vernay. C'est désormais dans leur laboratoire à Pontoise qu'ils tentent de faire parler ces précieux indices. On ignore toujours les causes de la mort. Toutes les pistes restent à l'étude. Sur place, une centaine de gendarmes sont mobilisés. Le hameau est toujours interdit d'accès pour préserver la scène. Les fouilles se poursuivent. Un travail d'archéologue minutieux et complexe. On est en pleine nature dans une zone parfois escarpée avec une végétation dense. Des militaires de la Légion étrangère spécialisés dans le sondage des sols sont engagés depuis hier. Leur mission, détecter les irrégularités de terrain et retrouver même enfouis des objets métalliques. Évidemment, plus on rassemble d'éléments, plus on augmente les chances de connaître un jour la vérité.
Frédéric Michel, le correspondant Europe 1 dans le Sud-Est. Les obsèques du jeune Shemseddine, 15 ans, mort vendredi après avoir été passé à tabac près de son collège, auront lieu cet après-midi dans la plus stricte intimité. Une marche blanche sera organisée vendredi après-midi dans les rues de la ville. Et puis c'est une information Europe 1. Une reconstitution de l'affaire Naël sera organisée le 6 mai prochain. Le jeune homme est décédé l'été dernier, abattu par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. L'officier plaide la légitime défense.
Il est 13h05 sur Europe 1, la suite du journal avec vous Céline Géraud.
Et dans cette Europe 1 13h, le mercato continue pour le Rassemblement National. Après l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, et l'essayiste issu de la droite, Malika Sorel, c'est Mathieu Vallée, le très médiatique porte-parole du syndicat des commissaires de police qui a décidé de rejoindre rejoindre le parti de Jordan Bardella pour les européennes. Et à travers cette nomination, Alexandre Chauveau, le Rassemblement national veut montrer sa capacité à rassembler.
Oui, ça a été très longtemps un reproche attribué au parti de Marine Le Pen, puis de Jordan Bardella, accusé de cliver la société. Eh bien, Mathieu Vallet, c'est la troisième personnalité issue de la société civile à rejoindre cette liste pour les élections européennes. Âgé de 38 ans, ancien gardien de la paix, devenu commissaire, il a notamment été chef adjoint de la BAC dans le Val-de-Marne. Il s'était mis en disponibilité la semaine dernière, quelques jours donc avant d'annoncer son ralliement au Rassemblement national. C'était ce matin dans la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Vous savez, je rejoins un grand mouvement populaire qui peut changer la vie de tous ces Français, ces ouvriers, ceux qui servent l'État, ces chefs d'entreprise, ces agriculteurs. Et donc, comme moi, je ne sais promis de cordée, hein, j'ai commencé gardien de la paix dans la police nationale. Et ben, j'estime que je rentre dans ce grand mouvement populaire porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella pour porter haut la main ce parti qui changera et redressera notre pays.
Sa nomination est censée crédibiliser la parole du parti sur les questions de sécurité. Elle intervient en pleine dynamique pour Jordan Bardella, donné à 32% des voix dans un sondage IFOP paru hier.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Allez, direction Bordeaux maintenant. Face à la montée de l'insécurité, le maire écologiste Pierre Urmic reconnaît qu'il s'est trompé et change son fusil d'épaule. Bordeaux a trop longtemps souffert d'un déni de réalité sur la sécurité, dit-il. Conséquence, eh bien, le maire recrute des policiers municipaux et augmente le nombre de caméras dans les rues bordelaises. Le reportage du correspondant Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place.
Il y a beaucoup de dealers qui sont là, dans la rue Sainte-Catherine maintenant. Avant, ils n'étaient pas là.
Il y a toujours des dealers. C'est impossible, on va tous fermer, on va tous vendre.
Des commerçants qui déplorent la délinquance liée au trafic de stupéfiants, phénomène que n'ignore pas le maire de Bordeaux. Ni shérif, ni naïf, l'élu écologiste assume de faire de la sécurité une priorité, avec notamment le déploiement de 215 caméras de vidéoprotection, plus 58% depuis 2020.
J'étais très hostile aux caméras de vidéosurveillance, essentiellement parce qu'à l'époque, elles nous étaient présentées comme destinées à pallier le retrait des policiers de terrain. Et en plus, quand j'ai donné mon accord aussi pour qu'il y ait davantage de caméras de vidéo protection, c'est vrai que j'ai peut-être évolué, été un peu moins raide que je l'avais été dans le passé, mais en même temps, j'ai tenu à ce qu'à Bordeaux, nous ayons un comité d'éthique. On est maire écolo et en même temps pragmatique. Et vous voyez, du coup, on empoche les policiers municipaux, mais je le fais pas de façon honteuse. Et la police de proximité, ça paye.
2 millions d'euros supplémentaires pour le budget de la police municipale, 10 agents recrutés chaque année. Pierre Urmic qui réclame parallèlement un renforcement des effectifs de la police nationale. Dans sa ville. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
13h08, on reste bien ensemble. Dans quelques instants, une petite lumière au bout du tunnel. Pour la première fois depuis 2 ans, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont en repli. Une bonne nouvelle aussi pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et puis, Marie-Josée Pérec va prendre la mer avec la flamme olympique. Restez bien avec nous jusqu'à 14h. Europe 1, 13h vous informe. À tout de suite.
13h-14h, vous écoutez Céline Géros sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h10. La suite du journal avec vous, Céline Géraud.
Et c'est officiel et c'est une première depuis 2 ans. Les taux de crédit immobilier ont bien commencé à baisser. Plusieurs acteurs du marché l'avaient relevé ces dernières semaines. Mais là, c'est la Banque de France qui le relève. La crise immobilière n'est pas terminée pour autant. Baptiste Morin.
En février, le taux des nouveaux crédits hors frais, hors assurance et hors renégociation s'est établi à 4,11% en moyenne. C'était 4,17% en janvier. Confirmation très officielle. Donc, les taux de crédit à l'habitat baissent enfin. Marie-Laure Baru-Etherington est adjointe à la Direction générale des statistiques de la Banque de France.
Les statistiques sont basées sur les offres de prêts immobiliers qui ont été négociées, disons, en fin d'année dernière ou début de cette année. Ça conforte. On a lu dans la presse depuis le début de l'année que les taux sont orientés à la baisse.
Pour autant, le montant de nouveaux crédits octroyés reste faible. En 2 ans, il a été divisé par 3. Maëlle Barnier est la porte-parole du courtier Meilleur Taux.
Nous, en termes de demande de crédit immobilier, on est à plus 30% par rapport à l'automne. Mais l'automne, c'était le fond de la piscine, si vous voulez. On est quand même à moins 30 par rapport à mars 2023.
Pour accélérer la relance, il faudrait aussi que les prix continuent de baisser. Et de baisser, franchement, ce n'est pas gagné. Selon le réseau d'agences immobilières Century 21, ils sont en baisse de seulement 3% sur un an en moyenne.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et dans cet Europe 1 13h, encore une bonne nouvelle pour tous les AESH, hein, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap en milieu scolaire. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité la proposition de loi qui vise à faire prendre en charge par l'État leur rémunération pendant la pause méridienne. Alexis de la Fléchère, jusqu'à maintenant, c'était les communes qui rémunéraient ces AESH pendant cette pause déjeuner.
Oui, sur décision du Conseil d'État, les collectivités devaient effectivement prendre leur relais sur cette pause déjeuner. Un système plus complexe administrativement qui pouvait mettre les parents dans l'embarras, se retrouvant même parfois à devoir aller chercher eux-mêmes leurs enfants sur cette pause méridienne. Et c'est ce à quoi a voulu répondre Virginie Lanlot du groupe Renaissance, rapporteur du texte.
Pour les enfants et pour leurs familles, ça va leur éviter de faire des doubles déclarations à deux entités différentes. Ça va nous éviter des ruptures de parcours. Ça va nous éviter le fait que les AESH aient un double employeur.
Et c'est sur ce point précis de double employeur que la députée LFI Muriel Levrault juge le texte pas assez ambitieux.
L'objectif de ce texte était de créer un employeur unique, mais en fait, ce texte ne va pas assez loin puisqu'il ne concerne que les temps méridiens et non pas les temps de garderie du soir et du matin qui sont notifiés également par les MDPH.
Les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, la France insoumise qui n'a pas voté le texte réclame aussi un réel statut de fonctionnaire pour les AESH. Deuxième profession de l'éducation nationale, ça représente environ 140 000 postes. L'Assemblée nationale a prévu une entrée en vigueur du texte lors de la prochaine rentrée scolaire en septembre.
Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Il est 13h13 sur Europe 1 et à 108 jours des Jeux Olympiques, Céline, c'est une équipe de choc qui va convoyer la flamme vers la Guadeloupe.
Et ce sera dans un mois, cette flamme va débarquer à Marseille en provenance d'Olympie, comme le veut la tradition, avant de sillonner la France jusque dans les Outre-mer. Le 7 juin prochain, c'est donc le skipper Armel Lecléache à bord de son maxi trimaran Banque Populaire qui va convoyer la torche. Et Martin Lange, ça y est, on connaît désormais aussi l'équipage.
Oui, un équipage de stars avec d'abord une championne olympique, Marie-Josée Pérec, tellement enthousiaste à l'idée d'emmener la flamme sur son île qu'elle a elle-même écrit à Lecléache.
C'est vraiment un beau symbole. Je suis la première championne olympique de la Guadeloupe. Je trouvais qu'il y avait une belle histoire en fait à écrire, une belle reconnaissance pour l'Outre-mer, pour la Guadeloupe. Alors je dis pas que j'ai pas peur, hein, j'ai les pétoches.
Avec elle, un chef étoilé, Hugo Rollinger, une Miss France, Marine L'Orphelin, également médecin. De quoi rassurer le comédien Alexis Michalik, le dernier moussaillon.
C'est toujours bien d'avoir un médecin à bord quand je commencerai à avoir le mal de mer au bout de 10 minutes, je pense.
Pour gérer cette joyeuse troupe, Armel Lecléache, capitaine, forcément fier, mais surtout exigeant.
On les a pas pris pour faire une croisière, ils vont pas être dans leur cabine et puis regarder la mer passer. Non, ça va être vraiment eux qui vont être acteurs. On va faire des quarts. Il y aura deux quarts de trois. Parce que de toute façon, il n'y a que trois couchages à bord du bateau, donc il n'y aura pas le choix. Les trois autres seront sur le pont en train de gérer la sécurité, la manœuvre et puis voilà, la conduite du bateau.
La grande aventure, ça commence le 7 juin, départ du port de Brest. Mais avant, tout ce petit monde se retrouvera à Lorient pour un entraînement à vitesse réelle.
Martin Lange pour Europe 1, 13h14, un point sur les marchés, comme chaque jour, avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Un marché dans le rouge.
Oui, le CAC 40 perd 0,5%, la tension monte avant des chiffres attendus demain. L'inflation américaine, toujours surveillée de très près pour comprendre la trajectoire des taux. Du côté des valeurs, Atos replonge de 15%. Le groupe informatique cherche un accord avec ses créanciers pour effacer une partie de sa dette. Il a besoin d'1,2 milliard d'euros d'argent frais pour assainir ses finances. Le luxe plombe la tendance, secteur qui pèse très lourd à Paris, moins 2,6% par exemple pour Hermès. Et puis c'est compliqué aussi pour l'aéronautique et la défense. Thalès perd 5%, moins 3% pour l'avionneur Airbus. Ailleurs en Europe, Francfort perd 0,8%, Londres est stable. Et puis à Paris, Céline, moins 0,5% pour le CAC 40, on est à 8081 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. 13h15, la météo maintenant avec vous Géraldine Hamon. Alors temps instable, du vent et des températures en baisse.
Exactement Céline, on perd 10 degrés dans certains endroits par rapport à hier. 12 degrés à Lille, il fera 13 degrés à Caen, Metz et Lyon. 14 degrés dans la capitale, 15 degrés à Nantes, 16 à Avignon, 17 à Nice, 19 à Marseille, jusqu'à 22 degrés à Ajaccio. Pour le ciel maintenant, eh bien le temps, vous le disiez, est instable sur une grande partie du pays où les éclaircies seront entrecoupées de passages d'averses. Ces averses seront à certains endroits et surtout sur le quart sud-ouest assez fortes et accompagnées de forts coups de vent et de coups de tonnerre. Près de la Manche, le vent faiblit légèrement malgré des rafales pouvant atteindre les 80 km/h sur les averses les plus fortes de la moitié ouest. Le Finistère, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange pour vagues submersion et vigilance orange pour crues aussi en Seine-Maritime et dans l'Eure. Ailleurs, le soleil va s'imposer notamment autour du golfe du Lion et demain, le temps restera assez mitigé sur l'ensemble du pays. Il fera frais le matin, les températures vont remonter dans l'après-midi.
Merci beaucoup Géraldine Hamon. On reste ensemble, bien sûr, comme chaque jour jusqu'à 14h. Et dans quelques instants, Europe 1 décrypte pour vous et avec vous l'actualité. Avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun, la menace terroriste sur les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Rassemblement National qui poursuit son mercato pour les européennes, le maire écologiste de Bordeaux qui change son fusil d'épaule face à l'insécurité, et puis avortement, GPA, le pape défend la dignité humaine. Nos enfants aussi qui lisent de moins en moins. Tous ces sujets, vous voulez réagir, 01 80 20 39 21, à vous de jouer.
Vous écoutez Céline Giraud, bon début d'après-midi de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche.
13h. De 13h à 14h avec vous Céline Giraud, vous pouvez aussi réagir, vous auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Et pour parler de l'actualité avec vous aujourd'hui, Céline, vos deux chroniqueurs, l'écrivain et essayiste Paul Melun et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier.
Bonjour Jean-Claude, bonjour Paul. Bienvenue à bord. Alors comme chaque jour, on va dérouler l'actualité et on va commencer par ce match sous haute tension hein, sur le terrain et en dehors. Je vais bien sûr parler du match de quart de finale aller de la Ligue des Champions qui va opposer Paris à Barcelone demain soir au Parc des Princes et qui sera très largement surveillé par les autorités. Pourquoi ? Eh bien parce que des menaces d'attentats circulent sur les réseaux sociaux. Le groupe État islamique incite ses combattants à passer à l'acte. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été interrogé sur le sujet ce matin. Écoutez.
Nous avons vu, parmi les autres, une communication de l'État islamique, en effet, qui vise particulièrement les stades. Elle n'est pas nouvelle. Je rappelle qu'il y a à peine 10 jours, l'État islamique a déjà évoqué, en mettant un stade, en l'occurrence le stade de Munich, en fond d'écran pour dire qu'il fallait passer à l'acte dans les lieux sportifs et singulièrement les stades, qui concerne donc manifestement, en effet, plus le football, mais il ne faut pas s'arc-bouter sur le football. Tous les sports où il y a du monde peuvent être concernés. On a vu qu'à Moscou, c'était une salle de spectacle en banlieue de Moscou, donc il faut vraiment avoir un œil qui est à 360 degrés et ne pas se laisser avoir par la communication de l'ennemi qui nous amènerait à concentrer des forces quelque part et à abandonner le reste. Donc oui, il y aura une protection particulière pour les quarts de finale, partout pour nos partenaires en échangeant avec des informations, mais non, ce n'est pas le seul endroit. Les terroristes peuvent aussi nous porter un certain nombre de coups psychologiques avant de frapper là où on ne les attend pas.
Voilà, les mots de Gérald Darmanin, Jean-Claude Dacier, voilà, ne pas se focaliser sur le stade. Voilà, il a l'air d'être assez détendu, si on peut employer ce mot-là, sur le sujet.
Je crois qu'il est comme les Français et même comme les Européens. Je crois qu'il va falloir s'habituer à vivre et à organiser notamment des grands événements dans un climat dégueulasse, quoi, dans un climat entretenu à dessein.
Ce que veut dire, c'est qu'on banaliserait quelque part cette menace terroriste.
Écoutez, moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais moins on en parle, me semble-t-il, mieux ça vaut. Mm-hmm. Ça ne dispense pas les responsables des GSE, des GSI, policiers et autres, les hommes de M. Darmanin, ça ne dispense évidemment pas de travailler, comme ils le font d'ailleurs, semble-t-il, avec sérieux et efficacité. Mais honnêtement, là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la pub à ces mouvements terroristes. Mmh. Alors, hélas, ils sont néanmoins capables, on l'a vu à Moscou, et on l'a vu chez nous en 95. Mmh. Bon, ils sont capables de passer à l'acte. Je pense qu'ils le sont peut-être, espérons-le, de moins en moins, parce que la bagarre a quand même commencé depuis longtemps. Néanmoins, moins on en parle. La menace, elle est là, on le sait. Il va y avoir des mesures qui vont nous enquiquiner parce qu'il faudra sortir.
Il y aura des mesures de sécurité supplémentaires demain soir au Parc des Princes, ça c'est sûr.
Bon, moi je m'intéresse d'abord et prioritairement, en souhaitant ne pas être évidemment déçu, je m'intéresse d'abord au score. Mmh. Et j'espère que le Paris SG va... J'ai pas digéré 2017.
Ah, bah quand même, ça fait un petit moment.
Avec la remontada.
Ah oui, ben voilà, ah oui, bien sûr. Mais, donc là, pour vous, il y a une ardoise à effacer.
C'était pas clair. Ce jour-là, c'était pas clair. Donc j'espère qu'on va avoir un bon. Que le PSG. Bon. Moi, je suis plutôt Marseillais, mais enfin, bon, le PSG, ça compte encore.
C'est une information.
Donc voilà, espérons que le résultat du football. Et qu'on oubliera les menaces qui sont... Il faut les prendre en compte, mais chacun fait son métier.
On rappelle quand même pour nos auditeurs que vous avez été président de l'Olympique de Marseille.
Oh, il y a tellement longtemps que j'ai oublié.
Et champion en 2010, champion de France en 2010.
On a été champion, on a même fait 5 titres en 2 ans. Voilà. Qui dit mieux ?
Okay. Et vous soutenez le Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Grâce à Deschamps, hein, moi je n'étais pas pour grand-chose.
Quand même, vous êtes un peu au bout de la chaîne, quand même, vous êtes là.
Trop modeste,
oui,
trop modeste.
Oui,
Paul Melun, sur cette menace, on entend effectivement Gérald Darmanin, il faut avoir une vision 360.
il a parfaitement raison, le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que ce sont des menaces qui ne sont pas à prendre à la légère. Lorsque les leaders, lorsque les chefs de l'État islamique, de Daesh, donnent un certain nombre de directives à tous ceux que l'on appelle, c'est peut-être d'ailleurs un abus de langage, mais les loups solitaires, ceux qui peuvent passer à l'acte sur un coup de tête, sur une simple incitation via les réseaux sociaux, via les canaux de propagande de l'État islamique, ceux-là peuvent passer à l'acte sur n'importe quel déséquilibré, n'importe quel fou furieux, n'importe quel violent, n'importe quelle personne qui est endoctrinée, salafisée dans son coin, peut décider de prendre les armes. Donc la menace, elle est extrêmement importante, elle est diffuse, donc le ministre a raison, il ne faut pas qu'en termes de sécurité, on dégarnisse un front contre un autre. Et ensuite, par rapport à ce que disait fort justement Jean-Claude sur le fait que apprendre à vivre avec la menace, cette formule qu'on a depuis des années, moi je la trouve terrible, cette formule. Et je n'ai pas envie de me résoudre à vivre avec la menace, comme on dit. J'ai envie qu'on boute hors de ce pays ceux qui sont en mesure de nous nuire. Alors ça peut passer pour un vœu pieux ou pour un vœu idéaliste, parce que c'est extrêmement difficile. Mais il faut s'en donner les moyens. On a des services de renseignement de très haut niveau en France, sur lesquels on peut compter. On a des services de police, de gendarmerie et des militaires l'opération Sentinelle, de très haut niveau là aussi. Il faut les aider, il faut leur donner les moyens d'agir. Il faut aider le renseignement à travailler et il faut que le ministre de l'Intérieur soit un facilitateur à tout prix de ce processus. Et ensuite, sur le processus culturel, il faut travailler la bataille culturelle, il faut travailler l'éducation pour éviter que des gamins soient embrigadés dans la mécanique infernale de la radicalisation. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir au milieu carcéral dans lequel, effectivement, un certain nombre d'idéologies islamistes se propagent comme une traînée de poudre. Il faut réfléchir à plein de sujets, à nos frontières, aux flux migratoires et à la façon dont on gère ces flux migratoires. Mais tous ces sujets-là.
Mais là, il y a des événements. Il y a la Ligue des Champions, il y a les Jeux Olympiques. On est à 108 jours aujourd'hui. On a le J-100 qui va arriver bientôt. Jean-Claude Dacier, d'ailleurs, au même moment, Gérald Darmanin était ce matin avec la brigade fluviale pour préciser les contours du dispositif de sécurité. Et il l'a redit. Il estime que la cérémonie sur la Seine reste une bonne idée. Il dit ne pas travailler sur un plan B. Donc on a des feux, des contre-feux.
Oui, on ne sait plus trop où on en est. J'ai le sentiment qu'ils font tout pour que cette cérémonie d'ouverture, c'est une formidable idée.
En précisant qu'aucune des 205 délégations n'ont demandé à ne pas défiler sur la Seine, y compris les Israéliens.
Écoutez, honnêtement, ça va demander un boulot incroyable aux forces de l'ordre, mais je pense que les contrôles vont être, j'imagine, beaucoup plus compliqués que dans un stade. Mais en même temps, reconnaissons que l'idée est géniale. Faire défiler à Paris, sur la Seine, toutes ces délégations, ça aura une gueule folle. Et donc, j'espère, encore une fois, c'est pour ça que laissons les forces de l'ordre travailler, les gars qui ont c'est le métier, et faisons en sorte, touchons du bois, mais faisons en sorte quand même, c'est bien la superstition, mais l'efficacité des enquêtes est supérieure, est plus efficace et plus utile. Moi, je maintiens que je veux croire que la cérémonie aura lieu sur la Seine.
Et ce sera dans 108 jours, pile poil, tic-tac, tic-tac. Allez, on reste ensemble, bien sûr, Paul Melun, Jean-Claude Dacier, on se retrouve dans quelques instants. On va parler de tout autre chose, de ce débat des européennes entre Marion Maréchal et Valérie Ayé. C'était hier soir sur CNews et Europe 1. Et puis, le mercato du Rassemblement National qui continue. On en parle avec vous, chers auditeurs. 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h31 sur Europe 1 et avec vous Céline Giraud.
Selon les informations d'Europe 1, une reconstitution de l'affaire Naël aura lieu le 6 mai prochain à Nanterre. L'adolescent de 17 ans avait été tué par la police en juin 2023 après un refus d'obtempérer, provoquant des émeutes pendant plusieurs nuits dans des centaines de quartiers sensibles de France. Deux des trois victimes de l'incendie dimanche d'un immeuble rue de Charonne à Paris présentent une plaie compatible avec un tir d'arme. Une enquête a été ouverte pour meurtre. La garde à vue de la mère d'Avallon a été prolongée de 48 heures. Il y a deux jours, 70 kilos de résine de cannabis ont été découverts lors de perquisitions dans une maison appartenant à la mère d'hiver gauche de cette commune de Lyon. Un homme né en 2001 a été interpellé et placé en garde à vue après l'agression samedi d'un brancardier à l'hôpital de Chaland, c'est en Vendée. Au moment des faits, il accompagnait à l'hôpital son père et son cousin. Il est entendu par les gendarmes. Le Hamas étudie une proposition de trêve. grève dans la guerre contre Israël. La proposition israélienne prévoit dans un premier temps la libération de 42 otages en échange de 800 à 900 Palestiniens, l'entrée de 400 à 500 camions d'aide alimentaire par jour et le retour chez eux des habitants du nord de la bande de Gaza. Enfin, Paris 2024, J-108, Gérald Darmanin a dévoilé le dispositif de sécurité qui entourera les Jeux Olympiques. Parmi les mesures annoncées, celle d'un QR code pour circuler dans certaines zones de la capitale.
13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 13h avec vous, Céline Giraud. Et pour décrypter l'actualité aujourd'hui avec vous en studio, Paul Melun, écrivain essayiste, et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier.
Et on va poursuivre les échanges avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous nous rejoignez, vous le savez, hein, jusqu'à 14h, vous pouvez réagir, interagir aussi avec nos chroniqueurs du jour. Et on va décrypter eh bien, ce débat. Marion Maréchal, Valérie Ayé, c'était hier soir hein, sur Europe 1 et CNews. Les têtes de liste Renaissance et Reconquête aux Européennes se sont fait face lors d'un débat. Et je vous propose, avant d'en discuter, eh bien, d'écouter un échange justement autour du pacte migratoire. Valérie Ayé en premier et ensuite Marion Maréchal.
La France va être bénéficiaire du mécanisme de solidarité. Aujourd'hui, les pays qui sont de première entrée, c'est l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France. Et qu'est-ce qui se passe? Viktor Orban en Hongrie refuse d'accueillir des migrants. L'enjeu demain, avec le texte qu'on va voter la semaine prochaine, c'est que chaque pays, les Slovaques, les Polonais, les Roumains, les Suédois prennent leur part pour accueillir les migrants.
Madame Ayé, évidemment, elle ne comprend pas qu'il y ait des pays qui ne veulent pas subir la répartition des migrants. Je suis toujours sidérée de voir que vous ne tenez pas compte aujourd'hui du poids social, identitaire, culturel et sécuritaire que fait peser l'immigration dans notre pays. Vous n'en parlez jamais. Mais même aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur fait le lien entre immigration et insécurité.
Voilà, le pacte migratoire, les échanges effectivement nourris. Paul Melun, vous avez regardé, suivi ce débat. Qui vous a le plus convaincu?
Bah écoutez, d'abord, il y a deux remarques. Une remarque de fond, une remarque de forme. La remarque de forme, j'ai trouvé le débat de très bonne tenue et intéressant. C'est pas mal, parce que déjà, on a un enjeu à ce que les gens votent. Pour qui? Ça, c'est leur affaire. Mais que les gens viennent voter et se déplacent, parce que c'est un vrai enjeu et que le 9 juin, ils ne soient pas à la plage, mais au bureau de vote. Et en cela, le débat était une réussite, parce que les deux candidates ont eu le temps de s'exprimer, elles ont développé leurs idées, ça a été d'une bonne tenue, elles ont
avec
été
Laurence
polies.
Ferrari, Sonia Mabrouk.
Et Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk ont su distribuer la parole et bien problématiser les sujets. Donc je trouvais que c'était déjà, sur la forme, une réussite collective. Ensuite, sur chacune, elles n'avaient pas tout à fait la même partition à jouer. Valérie Ayé, elle a
c'était crucial
elle.
Pour les deux, hein, dans les deux cas.
Les deux. Valérie Ayé, c'était son premier vrai grand débat à une heure de grande écoute. C'était une émission qui était importante pour elle. C'est là où beaucoup de Français la découvraient. Elle ne bénéficie pas de la même notoriété que Marion Maréchal.
Elle avait fait un 20h. Elle avait fait un journal de 20h.
Elle avait fait un 20h, mais c'était sa première confrontation dans l'axe du débat. Et c'est là qu'on se révèle. Le 20h est un exercice très important, mais un peu plus stéréotypé, un peu plus calé. Donc là, elle était sur un exercice de débat. Valérie Ayé, elle a été dans son couloir. C'est-à-dire qu'elle a défendu et ongle la politique d'Emmanuel Macron en tout point. Elle a été extrêmement comment dirais-je, on sent qu'elle avait préparé son débat. Marion Maréchal aussi avait préparé son débat. Marion Maréchal avait peut-être un point en plus par rapport à Valérie Ayé, qui était son aisance. C'est-à-dire que Marion Maréchal, c'est un animal de télévision quand même. Il y a peut-être une dizaine de personnalités politiques comme ça en France qui sont très à l'aise dans l'exercice du débat, de la confrontation d'idées, là où Valérie Ayé était un peu plus en retenue.
Et donc, on a appris il y a quelques jours qu'elle avait eu... qu'elle avait tout simplement tourné de l'œil avant son plateau du journal de 20h, hein, ce qui démontre quand même une certaine forme de fragilité face à la pression.
De fébrilité face à la pression. Maintenant, effectivement, la vertu de ce débat, c'est que deux visions diamétralement opposées, et ce que vous avez pris comme extrait sur le pacte migratoire le montre bien, les deux visions quasiment les plus opposées du spectre politique. L'une considère que le pacte migratoire, c'est la panacée. Dans l'interview, où d'ailleurs ça a fait un peu tiquer Sonia Mabrouk, qui lui a demandé de répéter, elle a dit qu'il y aurait plus de Lampedusa et qu'il y aurait plus finalement de jungle de Calais avec cette histoire. Moi, je trouve ça fou de déclarer quelque chose pareil. Si vous voulez, on va reprendre le magnéto dans quelques années. Il y aura toujours la jungle de Calais et Lampedusa et Madame Ayé va passer pour quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Donc, si vous voulez, la question migratoire, mais ils ont aussi parlé de l'agriculture, ça a été très intéressant.
Oui, il y a eu aussi
la discussion autour de la Russie qui a été importante parce qu'on a pu voir là aussi des différences très importantes sur la façon d'aider ou pas et à quel degré l'Ukraine. Donc je crois que, quoi qu'on en pense, on ressort, si vous voulez, avec une forme de clarification et avec deux lignes qui sont tellement opposées que le débat pouvait être qu'intéressant.
Et je rappelle qu'à ce stade, Valérie Ayé est créditée d'environ 17 17% des intentions 19, de vote, 17-19. Entre 16 et 19.
Francis les 20.
Et Marion, voilà, Maréchal, plutôt autour de 5%. Jean-Claude Dacier.
Non, mais je ne reviens pas sur ce que Paul a dit et que je partage totalement sur le style et sur la qualité du
qu'est-ce
débat.
Qu'est-ce que vous retenez de ce débat?
C'était bien, j'espère que ça va décider un certain nombre d'électeurs qui ont décidé de rester à la maison, d'aller voter, parce que c'est l'Europe quand même. Alors, je sais bien que ça ne fonctionne pas aussi de manière aussi satisfaisante que ça devrait, sans doute, notamment, mais pas seulement, sur l'immigration.
Est-ce que selon vous, elles ont donné envie à leurs électeurs d'aller voter
hier soir? J'en suis pas sûr, honnêtement, j'en suis pas sûr. Mais bon, politiquement, il est clair que Marion Maréchal a dominé le dialogue et a dominé le débat. Elle est à l'aise, elle a travaillé, elle a une vraie vision de l'Europe telle qu'elle devrait être et non pas telle qu'elle est. Valérie Hayet, je pense, a du potentiel. Moi, vous m'apprenez qu'elle avait failli tourner de l'œil lorsqu'elle a fait le 20h, mais...
Tourné de l'œil dans le taxi.
Il faut se mettre à la place de... Attendez, c'est difficile de vous rendre compte, vous allez parler à 20h ou vous allez faire un débat sur CNews.
Au 20h de TF1.
Oui.
Ouais. Vous connaissez
donc
bien.
Je ne suis pas autrement surpris que cela. Là où, effectivement, elle m'est apparue comme moins convaincante, c'est que je pense qu'elle n'est pas très critique. Et là, elle suit évidemment les consignes du président de la République à l'égard du fonctionnement européen. Or, on voit bien que ça ne va quand même pas fort. Bon, et notamment l'immigration, mais pas seulement. Pas seulement, il y a beaucoup de domaines. Alors, elle a beaucoup insisté hier soir sur le vote qui aura lieu, je crois, demain, mercredi, à Strasbourg, sur le pacte migration-asile, qui, en principe, est un accord. Ça a duré 10 ans, quasiment, avant de réussir à obtenir...
Et elle a participé aux négociations, d'ailleurs, Valérie.
Elle a participé. Défend un texte qui, je le crains, tu as dit Lampedusa et autres, je crains que tu aies raison, je pense que ça ne va sûrement pas empêcher les problèmes que nous avons connus ces dernières années en matière d'immigration sauvage. Mais bon, c'est le bilan du président de la République. Enfin, c'est le bilan. C'est la politique du président de la République. Oui. Elle s'appelle c'est besoin d'Europe. Ça sera l'argument qu'elle va défendre tous azimuts. Hier soir, elle a été qu'à moitié convaincante. J'ai trouvé, alors, Marion Maréchal très bonne. Un degré près, c'est qu'elle parle trop vite.
Elle est un peu mécanique.
Un peu mécanique et trop vite. Peut-être qu'elle voulait gagner du temps et placer le maximum de choses. Bon, hier, le dernier mot n'est pas dit. Je pense que, honnêtement, la candidate de Renaissance a du potentiel.
Alors, on va continuer à parler des européennes et du côté du Rassemblement National, qui poursuit son mercato, je le disais il y a quelques minutes. Après l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, l'essayiste issu de la droite, Malika Sorel, c'est Mathieu Vallée, l'ancien porte-parole du syndicat des commissaires de police, qui a donc décidé de rejoindre le parti de Jordan Bardella. C'est un peu The Voice, là, c'est le casting, ça n'arrête pas.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez fascinant du point de vue de la stratégie politique du RN, c'est qu'ils sont en train de faire ce qu'a fait jadis Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, on avait systématiquement, vous savez, au gré des remaniements, des nouveaux entrants qui faisaient le buzz, comme on dit aujourd'hui.
Un par semaine, quasiment, par mois.
On avait Éric Dupond-Moretti, et là, maintenant, c'est la même chose version RN. Un par mois, on nous égrène des têtes d'affiche qui sont, pour certaines,
casting
plus ou moins
parfait,
connues
selon vous,
des Français. En tout cas, si vous voulez, c'est cohérent. C'est-à-dire que il y a quand même des personnalités. Monsieur Leggeri a été patron de Frontex. C'est quand même quelqu'un qui est un haut fonctionnaire. Il avait été nommé à l'époque par Bernard Cazeneuve. C'est quelqu'un qui connaît très bien les enjeux migratoires au pourtour de l'Europe. Malika Sorel, ça serait plutôt une caution qui vient du monde intellectuel, même si elle avait déjà flirté avec plusieurs partis politiques depuis longtemps. Donc
ça lui a été
reproché. C'est en demi-teinte. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelqu'un, Malika Sorel, qui comment dirais-je, qui serait, je sais pas moi, une écrivaine ou une romancière qui sortirait
complètement.
Elle avait envie
de la lumière. Elle
avait déjà un prisme politique très affirmé. Et pour ce qui est de Mathieu Vallée, moi j'ai débattu plusieurs fois avec lui quand il était patron du syndicat des commissaires de police, je crois, indépendant. C'est quelqu'un qui connaît bien les sujets de la sécurité intérieure, qui est un bon débatteur.
Un bon communicant.
Qui est un bon communicant. Et ça peut leur être utile. Parce que c'est la même chose pour Renaissance. Il faut que les deux principales écuries, que ce soit Renaissance ou le RN, aient un certain nombre de snipers, comme on dit en politique, qui puissent être en mesure de porter la parole du candidat. Et ça, c'est important. Si Mathieu Vallée peut jouer ce rôle pour le RN, ça sera important pour eux.
Jean-Claude Dacier, sur ce casting.
Oui, je crois qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. La liste de Bardella prend de l'allure. Elle commence tout de même, je ne sais pas quelle place sera M. Vallée, mais quelle que soit sa place, je pense qu'il sera dans les 10 premiers pour être élu, et peut-être au-delà. Je pense que la liste Bardella a incontestablement de l'allure. Elle continue de progresser, puisque le dernier sondage, je crois, l'a mis quasiment à 32. Moi, je vais vous dire, j'attends quand même, on voit bien le Rassemblement National a gagné en crédibilité, la dédiabolisation est au-delà est atteinte. Néanmoins, il y a quand même, sur des élections européennes, un gros problème.
C'est quoi ?
Qui n'est pas M. Bardella. Bah, qui est quand même qu'il y a 4 ans, Marine Le Pen voulait sortir de l'Europe et de l'euro. J'attends, mais je ne doute pas qu'il le fasse.
Qu'il prenne la parole sur ce sujet,
que M. Bardella
pour préciser.
Nous explique pour quelles raisons il a cautionné à ce point. C'est pas un changement, c'est un virage sur l'aile. Quand vous dites l'Europe, ça vaut pas un clou, faut en sortir, l'euro c'est pire, ça précipite la France dans le désastre économique. Bon, je passe. Vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi de changer.
Ouais.
Et quelle attitude vous aurez vis-à-vis de l'Europe dans le quotidien du tous les jours et autres. Il a beaucoup reproché, semble-t-il, à M. Bardella de pas beaucoup travailler. J'en crois pas un mot. Néanmoins, il va falloir qu'il s'explique. Donc, j'attends avec impatience le prochain débat.
Il sera probablement interrogé à ce sujet.
En attendant, on va écouter tout de même Mathieu Vallée qui expliquait ce matin au micro de la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1 à 8h10 pourquoi il a décidé de rejoindre le Rassemblement National.
Moi, je dis que dans la Macronie, c'est toujours les deux phases. C'est plein de promesses et après c'est plein de paresse. Quand vous avez un président de la République qui dit qu'il y a des violences policières et des contrôles aux faciès, il switch un peu les policiers. Ensuite, quand après l'affaire Naël où ce policier Florian qui a donné et consacré toute sa vie à la République et dont le président a sacrifié sa présomption d'innocence sous l'autel d'acheter la paix sociale dans les banlieues, on voit qu'il a eu le déshonneur et la guerre. Bien sûr, puisqu'on a des voyous qui nous ont fait la guerre. Quand on brûle des commissariats, quand on brûle des mairies, quand on brûle des services publics, quand on brûle la maison de ceux qui n'ont plus rien.
La faute à l'oisiveté notamment, a dit le président de la République, c'est le bon diagnostic.
Non, la faute à la lâcheté politique. Et moi, vous savez, je suis issu d'une cité et le misérabilisme et le clientélisme politique, ça m'intéresse pas.
Voilà, Mathieu Vallée ce matin avec Sonia Mabrouk. Alors c'est vrai que du côté d'Emmanuel Macron, il y a Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Mais là, c'est quelqu'un qui vient du terrain, qui est dans du concret, du quotidien. Voilà, c'est et on sent qu'il, enfin évidemment, il maîtrise parfaitement les sujets dont il parle. Et là, on parle d'insécurité, de violence, d'ultra-violence.
Et puis
il maîtrise les sujets.
Je t'en prie, Paul. Pardon. Et en plus, non seulement il maîtrise les sujets, mais en plus, là, dans l'extrait que vous avez diffusé, on voit bien qu'il colle assez près à ce que pense, semble-t-il, une bonne partie des policiers qui se sont sentis laissés. Pour compte. Et des Français, absolument, tu as raison. C'est-à-dire que les policiers, quand par exemple Emmanuel Macron, au mépris de la présomption d'innocence de ce policier, semble tout de suite considérer qu'il est fautif, on met en place la minute de silence, etc. Quoi qu'on en pense, ça a quand même heurté, l'affaire Naël, ça a heurté un certain nombre de policiers. Quand effectivement le président de la République justifie les émeutes par l'oisiveté, aujourd'hui on voit ce qui s'est passé avec Samara, avec Viry Châtillon, on nous dit c'est les réseaux sociaux. Enfin, il y a quand même un côté un petit peu ne pas voir le réel. On met la poussière sous le tapis, exactement. Donc les policiers, je pense, ils en ont un peu marre.
Attendons que la campagne ait réellement commencé, ou en tout cas se soit développée, mais on est en déficit aujourd'hui d'explications et d'exigences de la part, un, du président de la République, le discours des Mureaux il y a longtemps et ça suffit pas, et deux, de la part du garde des Sceaux qui lui aussi, à mes yeux, n'assume pas la politique de fermeté que souhaite et qu'exige un certain nombre de Français. Et je vais un peu au-delà. On verra les résultats. Mais je pense que la majorité des Français, même ceux qui ne se déplaceront pas, souhaitent que les problèmes de l'immigration, pour l'essentiel, reviennent à une politique nationale. Politique française. Parce que l'Europe, on le voit bien, on n'a pas insisté sur le pacte immigration, asile. C'est un foutoir sans nom. Notre ami Orban veut pas toucher de l'argent, mais s'il veut de l'argent pour faire mettre des barbelés tout au long de sa frontière. C'est le foutoir sur le problème, qui est un problème compliqué, je le reconnais, l'immigration. Mais c'est la clé d'un certain nombre de situations en Europe qui ne sont plus acceptées, notamment en France, par les Français.
Eh bien, on va continuer à parler de l'insécurité à Bordeaux cette fois. Le maire écologiste revient sur ce qu'il avait dit, change son fusil d'épaule et décide finalement d'équiper sa ville de caméras de vidéosurveillance. On en parle dans quelques instants avec vous, 01 80 20 39 21.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud qui vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1.
Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 13h48, la suite d'Europe 1 13h, avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline Giraud, Paul Melun, écrivain essayiste, et puis le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier.
Et on parle justement de ce maire écologiste de Bordeaux qui change son fusil d'épaule. « Je ne suis pas un maire shérif, je suis pragmatique », a-t-il dit. Évidemment, il parle des caméras de vidéosurveillance. Il dit « J'étais contre, parce qu'à l'époque, elles étaient présentées comme destinées à pallier le retrait des policiers de terrain. Je me suis toujours insurgé contre ça en me disant qu'on a besoin de policiers dans les rues. Les caméras ne remplaceront jamais la présence physique. » Renforcement également des policiers dans les rues, mais pas d'armement pour les policiers, Jean-Claude Dacier, pour le moment. Il envisage d'ailleurs de faire un référendum.
Monsieur Hollande a le droit de... Et je salue même son changement de politique, son changement d'avis. Bon, son excuse, elle vaut ce qu'elle vaut, à mon avis, pas grand-chose. Mais prenons pour l'essentiel son virage bienvenu, à savoir que les caméras ont largement prouvé depuis fort longtemps leur efficacité dans les enquêtes. Elles ont longtemps disparu ou n'ont pas été présentes dans les villes dirigées par des socialistes.
Mais la sécurité a augmenté à Bordeaux aussi, hein, c'est ce qui a justifié plusieurs années. Bon.
Mais écoutez, moi je ne vais pas jeter la pierre à M. Yomik, il se trompait depuis 20 ans, il a changé d'avis, tant mieux, j'espère que son exemple, je vais vous dire ce que je pense, c'est que j'espère que son exemple va être suivi.
Par d'autres maires écologistes.
Rennes, Nantes, il y en a beaucoup d'autres.
Grenoble,
tu as raison. Je suis pas sûr que M. Piolle soit très enclin à la vidéosurveillance.
Je suis pas sûr qu'il change d'avis.
Alors bon, Bordeaux, moi c'est la situation à Bordeaux, je la connais bien, parce que j'y ai vécu jusqu'à mes 22 ans, 23 ans, et je peux constater, comment dirais-je, tous les problèmes d'insécurité qui règnent à Bordeaux. J'y vais de temps en temps, bien sûr, le week-end, voir ma famille. Bordeaux était une ville où il faisait très bon vivre. Une ville dans laquelle il y avait peu de quartiers dans lesquels il pouvait y avoir des problèmes et où, quand vous alliez dans le centre-ville de Bordeaux, flâner, vous promener, il y avait une tradition, c'était le dimanche sans voiture, le premier dimanche du mois, vous alliez, il y avait les enfants avec les vélos, etc. Vous pouviez aller dans à peu près tous les quartiers. Très franchement, vous ne voyez pas d'incivilité ou de graves atteintes aux personnes ou de délinquance. Aujourd'hui, il est vrai qu'il n'y a plus de quartiers à Bordeaux où je ne vois pas, y compris le jour, ce qui est quand même rare, c'est pas que la nuit, des problèmes où on voit effectivement des actes de délinquance ou d'incivilité. Donc, si vous voulez, cette ville est en proie à l'insécurité croissante de façon tout à fait exponentielle et Pierre Urmic est obligé, si vous voulez, le réel lui a tellement donné tort, lui qui refusait même de parler de cela, il est quand même conseiller municipal depuis des années, monsieur Urmic, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est depuis 95. Donc il était l'opposant numéro un d'Alain Juppé à l'époque et lorsqu'Alain Juppé parlait de la sécurité, Pierre Urmic faisait partie de ceux qui disaient surtout pas, etc., tout va bien madame la marquise et regardons ailleurs. Aujourd'hui la situation à Bordeaux est délétère. Les habitants n'en peuvent plus, y compris probablement des habitants qui ont voté pour Pierre Urmic parce qu'ils ont le souci de l'écologie, ce qui est un souci tout à fait légitime. Mais on peut se soucier de l'écologie tout en se souciant de la sécurité, de la tranquillité publique, à tout le moins. Et donc, Pierre Urmic, je pense que face au déferlement de violence aux abords et dans sa ville, il finit par être obligé, face au réel qui lui donne tort, de prendre quelques mesures. Alors maintenant, la vidéoprotection, si vous voulez, c'est une petite partie, Jean-Claude le disait justement, pour la résolution des enquêtes, c'est utile, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut réfléchir le sujet de l'insécurité de façon beaucoup plus globale. Et là, je suis pas sûr que, connaissant un peu le logiciel idéologique de monsieur, je ne suis pas sûr que ce soit l'homme qui soit en mesure de faire grand-chose sur les questions d'insécurité à Bordeaux. Et malheureusement, je pense que les Bordelais ont encore de dures années devant eux de monter de l'insécurité, de l'ensauvagement dans leur ville.
L'autre sujet que je voulais aborder avec vous avant 14h, ça concerne le pape. Le pape qui a donc publié ce texte d'une vingtaine de pages, Dignitas Infinita, qui veut dire d'une infinité dignité. Alors, il brosse différents sujets, mais en revanche, il prend position d'un côté contre la criminalisation de l'homosexualité, encore en vigueur dans certains pays, et il dénonce, par contre, véritablement la théorie du genre. Pour lui, c'est évidemment un sujet très important. Alors, il y a deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous retenez de cette...
D'abord, je ne l'ai pas lu.
Oui, vingtaine de pages.
Je ne suis pas sûr que je le lirai. Ensuite, je n'ai pas la foi, donc je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces questions importantes. Mais c'est vrai, tu le disais il y a une seconde, l'Église a du mal depuis quelques dizaines d'années à accepter une certaine modernité qui n'a pas que des qualités.
Il condamne l'avortement, la GPA et la théorie du genre. Mais il soutient la communauté LGBT.
Au jour d'aujourd'hui, contre la criminalisation de l'homosexualité, évidemment, il y a encore un certain nombre de pays qui, hélas, ils sont encore, et c'est bien dommage, et là j'approuve totalement le dicastère et le texte qui a été écrit. Sur l'avortement, je ne sais plus ce qu'ils disent, mais je crains, hélas, que ce ne soit pas tout à fait du même mode, et la condamnation reste totale et entière. Le transgenre, j'imagine aussi. Sur le transgenre, je dois reconnaître que je partagerai sans doute une partie du point de vue de l'Église, quand on voit les excès auxquels parfois le transgenre arrive, notamment en France. Je pense que qu'on laisse les ados aller à 16, 17, 18 ans avant de prendre une décision, ce qui me paraît stupide, mais alors quasi criminel, c'est d'intervenir parfois chirurgicalement sur des enfants de 10 ou 11 ans parce qu'ils se trouvent plus filles que garçons ou l'inverse. Bon, globalement, je vais vous dire, et je conclue là-dessus, c'est que moi j'ai un problème avec l'Église des hommes. Je respecterai profondément, j'essaie d'avoir la dignité humaine telle qu'on peut essayer de l'avoir quand on est dans un monde comme le nôtre, mais j'ai quand même un problème avec l'Église des hommes. Depuis plusieurs années, on a découvert ce qui se passait parfois ici ou là, et j'ai du mal avec ça. La dignité humaine pour tout le monde.
On va écouter Marie, qui nous appelle et qui nous écoute en Normandie, qui souhaitait réagir sur ce sujet. Bonjour Marie.
Bonjour messieurs, dames.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. En quelques mots, votre position par rapport à ce qu'a dit le pape.
Alors, je suis extrêmement choquée. Je suis moi-même croyante, j'ai la foi. J'ai vécu dans ma vie une interruption thérapeutique de grossesse. Bon, c'est quelque chose de très douloureux, où vous êtes seule avec votre problème. Donc, j'ai survolé un petit peu sur le monde, et là, j'ai retenu des mots qui vraiment me choquent.
C'est-à-dire
une crise très dangereuse du sens moral dans l'acceptation de l'avortement, dans les mentalités, dans les mœurs et dans la loi elle-même.
Qu'est-ce que vous voulez que la position de l'Église évolue ?
Ah, du tout, non. Elle n'avance pas.
Vous voudriez que ça évolue ?
Oui, un avortement, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a une souffrance derrière ça. Si l'Église catholique n'est pas capable de la comprendre, si je réagis comme ça, c'est suite à l'intervention ce matin d'une dame.
Oui.
Et je me suis sentie jugée par rapport à ça.
Oui, chez Pascal Praud et vous. Oui, dans l'émission de Pascal Praud et vous. Oui.
Voilà, donc moi je suis croyante, mais ma foi je la vis pour moi. C'est-à-dire, j'essaie d'être bienveillante, mais je ne vais plus à la messe.
Merci Marie. Oui, il faut qu'effectivement, on entend ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut que la position de l'Église évolue sur l'IVG.
Moi, je trouve le témoignage de Marie très intéressant et surtout très représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui. On l'a vu sur le débat sur la constitutionnalisation de l'IVG il y a quelques semaines. Les Français sont majoritairement, alors après il y a des nuances, mais majoritairement assez, moi aussi d'ailleurs, assez progressistes sur un certain nombre de sujets, sur l'acceptation de la différence, sur l'orientation sexuelle, sur le droit des femmes à disposer de leur corps, sur l'IVG notamment. Mmh. Et je pense que l'Église, on le voit depuis Vatican II, c'est difficile pour l'Église de s'adapter aux évolutions de la société, aux évolutions de l'Occident, aux évolutions des mentalités. Moi, je n'attends pas la parole du pape pour savoir ce que je dois faire. Je suis plutôt agnostique, pour tout vous dire. Donc, je n'attendais pas ce texte pour savoir comment penser ou me comporter. Mais je pense, là aussi, comme Jean-Claude, que la foi personnelle est une chose, l'Église des hommes en est une autre.
Merci beaucoup, Paul Melun, Jean-Claude Dacier. Bientôt 14h, c'est déjà fini, mais on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures comme chaque jour, et on décrypte l'actualité. Merci, chers auditeurs d'Europe 1, et à demain.
C'était Céline Girod sur Europe 1, que vous retrouvez demain de 13h à 14h. Et ce soir, retrouvez Punchline, présenté par Laurence Ferrari. Punchline, c'est du lundi au jeudi de 18h à 19h, et c'est une heure d'information, d'analyse et de débat en direct sur CNews et Europe 1. Pour le moment, votre après-midi se poursuit avec, comme tous les jours, du lundi au dimanche, Christophe Ondelat de 14h à 15h. Vous raconte les histoires qui vous ont marqué. On de la raconte, c'est juste après les infos de Cédric Chasseur. À tout de suite sur Europe 1.